Poids Nus. Cette semaine, Zoé Sfez rencontre Dominique Blanc. Ce soir, à la Comédie Française, le théâtre, dernier lieu de l'intelligence.
Bonsoir Dominique Blanc.
Bonsoir.
Nous allons passer déjà notre dernière soirée ensemble. On est toujours ici dans votre loge de la Comédie Française.
Voilà.
Vous êtes ici à la Comédie Française depuis 2016. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment elle arrive cette proposition de devenir pensionnaire à la Comédie Française?
Alors en fait, en 2014, aux alentours de Noël, je reçois un coup de téléphone d'Éric Ruff qui demande à me voir. Et ça me paraît très étonnant parce que je vois son travail. Il a notamment fait une très belle mise en scène de Peer Gynt avec Hervé Pierre. Donc je vois ses mises en scène. Mais je me dis, tiens, c'est curieux, peut-être qu'il montre quelque chose à l'extérieur du français parce que je n'imagine absolument pas, et d'ailleurs je n'y pense même pas, qu'il m'offre de rentrer dans la troupe. Eh bien, en fait, c'est ce qu'il me propose. Nous voilà au Nemours, l'avant-veille de Noël, et il me dit, bah écoute, voilà, après s'être échangé des nouvelles de nos vies privées et de nos familles, il me dit, voilà, j'aimerais que tu rentres dans la troupe. Je suis complètement stupéfaite, parce que c'est vrai que ça, je ne m'y attendais pas. Je suis très heureuse, ça me remplit de joie, et en même temps, ça me remplit d'inquiétude, parce que j'ai deux projets à venir, et je n'ai pas du tout envie de planter les gens... avec qui je me suis engagée. Il y a Christine Le Tailleur qui va monter Les Liaisons Dangereuses avec Vincent Pérez. Et Deborah Warner a très envie de monter avec moi Le Testament de Marie. Donc on discute et puis on se sépare en se disant que je vais réfléchir. Mais Eric laisse les portes toutes ouvertes et il me dit tout est possible. Et tout l'a été. C'est-à-dire que j'ai pu faire Les Liaisons Dangereuses et la tournée de 5 mois qui était prévue.
Dans le rôle de la marquise de Merteuil.
Dans le rôle de la marquise de Merteuil.
Quel rôle ?
Un rôle inouï. Génial. Et aussi les 3 semaines au Théâtre de la Ville à Paris. Et puis un an après, alors en étant cette fois à l'intérieur de la troupe, j'ai pu jouer Le Testament de Marie mis en scène par Deborah Warner dans le théâtre de l'Odéon, en partenariat avec le Français. Donc c'est un conte de fées, parce que tout a été possible sans que personne ne se sente ni abandonné ni lésé.
C'est quoi alors le français pour vous? C'était quoi avant et c'est quoi maintenant que vous y êtes?
Alors le français, avant, j'y venais régulièrement, pas tous les mois, mais dès que j'entendais qu'un spectacle était bien, je venais. Bon, j'ai des souvenirs qui sont tout à fait historiques, comme évidemment la sublime... Bérénice, mise en scène par Gruber et interprétée par l'immense Lumila Michaël. Enfin, j'ai vu des très très beaux spectacles et des très grands spectacles, mais en étant toujours à l'extérieur. L'idée de rentrer dans la troupe m'est vraiment jamais effleurée. J'ai dû y penser gamine, hein, quand j'avais 10 ans et que j'étais venue visiter Paris 2-3 jours. Je pense que mes parents, parce que je me rappelle avoir photographié le bâtiment, et j'ai la photo dans la tête encore. Donc j'avais dû, à ce moment-là, est-ce qu'on me l'avait dit, est-ce qu'on m'avait poussé à rêver, j'en sais rien. Mais j'avais entrevu la chose, et puis plus jamais. Donc quand j'arrive là, le 19 mars 2016, Éric Ruff et Leonidas Strapatakis, son bras droit, sont au garde-à-vous à la porte, et ils m'attendent. C'est génial. C'est extraordinaire. Et m'attend aussi Stéphane Braunschweig pour commencer à répéter Britannicus et commencer à travailler sur le rôle d'Agrippine, la fameuse Agrippine.
Parce que c'est Éric Ruff qui avait été votre Hippolyte dans ce fameux Phèdre de 2003,
oui.
Qui vous invite à venir donc dans cette mise en scène de Stéphane Braunschweig,
oui.
Pour refaire du Racine.
Oui, c'est ça qui est incroyable. Et alors Phèdre, on en a suffisamment parlé, mais Agrippine, c'est vraiment le rôle dont je n'ai jamais rêvé. Enfin, je l'ai lu, oui, bien sûr, comme beaucoup de gens. Mais jamais je me suis dit, oh là là, celle-là. Alors que Phèdre, je l'avais travaillé chez Florent. Agrippine, j'en ai jamais rêvé. Je la lis, enfin, je la relis. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec cette dame, franchement Ça me paraît si loin de moi.
Pourquoi
Je sais pas, c'est une femme de pouvoir, une femme politique. Je ne suis ni l'un ni l'autre, donc... Bon, mais je vais m'y intéresser de très près, et ma très grande chance à ce moment-là, c'est que vient de paraître une biographie d'Agrippine par Virginie Giraud aux éditions Taillandier. Sexe, crime et pouvoir dans la Rome impériale, Agrippine. Voilà, ça m'a sauvé la vie, parce que c'est assez difficile d'avoir des informations authentiques sur Agrippine, étant donné qu'elle a écrit ses mémoires qui ont disparu, donc on ne sait rien. Les historiens qui ont vécu bien après elle étaient d'une telle misogynie que de toute façon, ils ne la décrivaient que, je ne sais pas, alors, de l'inceste, en veux-tu, en voilà, beaucoup de sexe, évidemment, obsédé par le sexe, la luxure, l'argent, enfin, un personnage tellement peu intéressant et tellement caricatural, surtout. Donc, j'ai sauté sur cette biographie et l'auteur, Virginie Giraud, raconte que les Anglo-Saxons, heureusement, depuis notamment le début des années 90, ont un petit peu, si vous voulez, revisité tous ces mythes, parce qu'elle en était un. Et on a pu rendre justice à son grand pouvoir politique notamment. C'est une femme qui avait la puissance d'une Angela Merkel aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, elle est un petit peu affaiblie. Mais d'une Angela Merkel, il y a un an ou deux, si vous voulez. C'était la femme la plus puissante de l'Antiquité. Elle l'a été bien davantage que Cléopâtre. Et justice lui est enfin rendue à travers cette biographie et à travers la recherche de ces auteurs anglo-saxons qui sont, il faut le dire, un peu moins misogynes que ces historiens latins indécrottables.
Mais c'est intéressant parce que quand vous défendez la Locandiera, quand vous défendez la marquise de Merteuil, quand vous défendez Agrippine, à chaque fois, quand on lit des interviews de vous, et comme vous venez de le faire aujourd'hui, vous avez quand même une manière politique d'approcher les rôles. Est-ce que ça vous va si on dit ça ou pas ?
Oui, si, si, ça me va très bien. On ne peut pas approcher un personnage en l'extrayant, si on peut dire, de son contexte historique, sociologique, psychique, psychologique, psychanalytique, tout ce que vous voulez. Mais je veux dire, oui, bien sûr, ça, c'est le mot politique au sens le plus noble du terme pour moi. Il faut savoir ce qui se passe à ce moment-là. Si vous jouez Madame de Maintenon dans l'Allée du Roi, il faut savoir quel était le contraceptif utilisé à l'époque. Sinon, vous ne pouvez pas incarner Madame de Maintenon. C'est pas possible. Donc, pour jouer Agrippine, c'est pareil. Il fallait relire un petit peu tout ce qui était les Romains à l'époque. Enfin, j'ai pas tout relu non plus, faut pas exagérer. Mais surtout, cette puissance considérable. Et puis, cette petite fille née d'un général d'armée absolument incroyable, guerrier, valeureux, très aimé par les Romains, qui fait qu'Agrippine a aussi été aimée des Romains. Rétablir une vérité qui sera que la mienne, et uniquement, et puis celle du metteur en scène, évidemment, et celle de l'auteur aussi. Mais je trouve que le rôle de la comédienne, c'est vraiment de fusionner ces trois points de vue. En avoir un, avoir celui du metteur en scène, l'entendre, et puis celui de l'auteur. Stéphane Braunschweig, ce qui ne l'intéressait pas du tout, et c'était formidable, c'était la relation soi-disant incestueuse entre la mère et le fils. Bon, c'est vrai que bien souvent, n'ont été représentés que cela, c'est-à-dire l'inceste potentiel entre Agrippine et son fils Néron, et plus tard la naissance du fascisme, mais bon, on n'en sait rien en fait. Et puis ça a été tellement joué, tellement raconté dans toutes les versions possibles et inimaginables, que ça, c'est un côté qui n'intéressait pas du tout. Par contre, ce qui l'intéressait, c'était la vision politique et le pouvoir, pouvoir majuscule. Et qu'en fait, cette femme, quand la pièce démarre, est paniquée totalement parce qu'elle est dans une angoisse de mort, parce qu'elle pressent très bien que son fils va changer et que le jour où son fils changera, de toute façon, il finira par la tuer.
Alors, ce réinvestissement de racines, c'est aussi le moment où vous jouez pour la première fois dans cette comédie française avec tout ce que la comédie française est, presque un monde en soi. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que cette maison, pour ceux qui ne la connaissent pas ? On sait qu'il existe cette troupe, on sait qu'il existe ce lieu, qui a sa cantine, qui a ses habilleurs, qui a ses éclairagistes. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette troupe, vous qui disiez que quand vous étiez jeune, vous étiez heureuse, en intégrant notamment l'Enterrement-Dier, de trouver une troupe ?
Ben, il faut s'imaginer déjà que la Comédie française représente 460 personnes, hein, donc c'est énorme. C'est trois théâtres, c'est la salle Richelieu, c'est le Vieux Colombier et puis c'est le Studio Théâtre. Donc c'est trois programmations énormes, hein, chaque année au fond. La troupe doit avoir actuellement aux alentours d'une soixantaine de comédiens. Je pense que vous avez deux tiers de sociétaires, dont à l'intérieur un tiers de femmes, deux tiers de pensionnaires, dont un tiers ou la moitié de femmes. Ça doit être quelque chose comme ça. Quand je suis arrivée, j'ai été accueillie merveilleusement par la distribution de Britannicus, donc par Laurent Stocker, mon fils Néron, par Hervé Pierre, Stéphane Varupen, Benjamin Laverne, et puis Clotilde de Bézère et Georgias Galliette. C'était une petite distribution, et ça c'était merveilleux, parce que ils m'ont tous dit, bon, écoute, on va t'aider. Laurent Stocker m'a dit, tu sais, il faut 2 ans. Donc tu verras, dans 2 ans, ça ira mieux. Je me suis dit, mon Dieu, 2 ans. Et puis en fait, ça fait déjà 2 ans. Je n'ai pas vu le temps passer. C'est incroyablement fulgurant. C'est sportif, voilà, faut le dire. C'est un rythme sportif, voire de sportif de haut niveau, pour certains. Parce que les répétitions commencent à 13h jusqu'à 17h, et qu'on est ensuite programmé pour jouer le soir à 20h30, soit dans le même lieu à Richelieu, soit au Vieux Colombier, soit au Studio Théâtre. Il faut imaginer que dans le week-end, puisqu'on joue le samedi et le dimanche, les gens parfois peuvent jouer 3 spectacles le samedi et 3 spectacles le dimanche. Alors bon, je crois que maintenant, tout le monde est très attentif au rythme physique et à ne pas en faire trop, parce que évidemment ça finirait par nuire à la qualité des spectacles. Ce qui est certain, et la raison pour laquelle moi j'ai dit oui, c'est que la proposition est venue d'Éric Ruff. Or, Éric était au Français, et il y est entré grâce à Jacques Lassalle, disparu récemment. Éric est au Français, je crois, depuis 21-22 ans. Donc, moi, ce qui m'a plu, c'est que je sais que c'est quelqu'un qui connaissait, et qui connaît, très bien le matériel humain de la troupe. Il connaît parfaitement les 60 personnes, ou 62, 63, j'en sais rien. Je savais aussi que sa mission, il avait dit très joliment dans Télérama, qu'il voulait ventiler. Donc je savais qu'il y avait une envie d'air pur, d'oxygène et de grands horizons. C'est aussi ça qui m'a décidé à dire oui. Et je dois dire que depuis, je n'ai pas été déçue, parce qu'effectivement, alors j'ai incarné Agrippine dans une mise en scène de Stéphane Braunschweig et un décor très contemporain, très très moderne. Ça pourrait se passer à la Maison Blanche, à l'Élysée ou dans n'importe quelle multinationale hyper puissante, chez Google par exemple, vous voyez, ou chez Apple. Donc ça a été particulièrement apprécié et beaucoup apprécié de la jeunesse, qui est extrêmement important pour moi. C'est-à-dire que là-haut, aux Enfants du Paradis, vous avez des gamins qui achètent leur place 2 francs 6 sous au petit bureau. Le petit bureau, c'est un petit guichet sur le côté du Français où chaque jour vous pouvez acheter pour pas cher, donc moins cher qu'une place de cinéma, une place pour la Comédie Française. Et ils viennent les jeunes, et ils ont adoré ce Britannicus, parce que pour eux c'est un peu comme une série, vous voyez, ça leur parle. Et puis après, j'ai eu la très grande chance de rencontrer Julie Deliquet, qui est une metteuse en scène qui dirige un collectif. Et cette Julie Deliquet est incroyable, elle nous a fait travailler sur Vania, donc d'après Oncle Vania de Tchekhov, et elle m'a demandé d'incarner la mère de Vania, jouée par Laurent Stocker, donc à nouveau la mère de Laurent Stocker, Maria Eferovna. Et on a fait ça à travers des improvisations. On a fait des improvisations pendant plus d'un mois et demi. Vous imaginez? J'en avais pas fait depuis des siècles. Je savais même plus comment on faisait ça. C'était comme une renaissance, vous voyez. Je retournais à mes débuts, en fait. On fait des impros. Alors toi, tu joues machin. Moi, je joue truc. C'est des impros surveillées, hein, attention. Parce que la jeune femme, Julie Deliquet, maîtrise très très bien son sujet. Donc elle sait très bien ce qu'elle fait. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que Vania, elle avait décidé dès le départ que ce serait un dispositif bifrontal. Et moi, j'adore ça. C'est-à-dire du public des deux côtés. Et pour les comédiens, l'obligation de jouer à 360 degrés en permanence. Donc, évidemment, pas de trop de texte. C'est interdit. Et puis, s'il y en a, on se serre fort les coudes et on compte sur les autres pour se sortir de l'affaire. Et voilà, ça a été très très joyeux. Et puis est arrivé le mois de septembre, je ne l'avais pas vu arriver, la première, et une critique tout à fait enthousiaste pour ce Vania, ce qui fait qu'Éric Ruff l'a reprogrammé la saison d'après. Et puis ensuite est arrivée une troisième aventure qui n'était pas prévue du tout. C'était un Marivaux, je n'en avais jamais joué. C'était être dirigé par Clément Hervieux-Léger, dont j'avais adoré le Misanthrope, incarné par Loïc Corbery et Georgias Galliette. Il m'a proposé de jouer la marquise dans Le Petit Maître corrigé. J'ai dit oui, et de nouveau la pièce a été un succès, et de nouveau reprogrammée la saison d'après. Parce que je crois qu'Éric Ruff a un vrai choix et une vraie démarche éditoriale. Il sait ce qu'il veut faire pendant qu'il est administrateur. Il connaît sa troupe, il connaît le matériel humain qu'il a sous son toit, il connaît aussi très bien toutes les autres personnes, hein, et c'est beaucoup de gens. C'est les gens du costume, au dernier étage, à l'étage Rachel, qui travaille à l'image de la haute couture française. Beaucoup de costumes, d'ailleurs, ont été faits par Christian Lacroix et je crois aussi par Jean-Paul Gaultier. Mais ce sont des artisans d'un niveau qui n'existe plus dans la ville de Paris actuellement. C'est très impressionnant. Les décors sont construits à Sarcelles, je crois. Donc il y a un atelier de décor comme il n'en existe plus du tout dans Paris, ça j'en suis sûre. Tout le personnel des bureaux, le personnel de l'habillage, bien évidemment, le personnel du maquillage, personnel de la coiffure, enfin toutes ces personnes qui s'occupent du spectacle vivant en permanence à l'intérieur de ces murs. C'est considérable.
Il y a une autre production très importante pour vous, je le sais, Dominique Blanc, dans laquelle vous êtes présente, qui est Poussière de Lars Noren. C'est un texte qui est entré au répertoire avec cette création à laquelle vous participez. Lars Noren, qui est un grand poète, parfois peut-être pas assez connu en France, et qui fait ce texte où on se retrouve face à une dizaine de personnages qui sont en vacances dans un lieu indéfini, qui sont tous très vieux et qui sont aux portes de la mort, qui n'attendent plus que la mort, quasiment, et que l'on voit d'ailleurs partir au fur et à mesure dans cette mise en scène. C'est une mise en scène très étrange parce que il y a des comédiens qui sont âgés, mais pas aussi âgés que le rôle, et puis on les voit vieillir. Vous interprétez un de ces personnages, qui n'a pas de prénom d'ailleurs.
B, elle s'appelle B.
Elle s'appelle B. Je crois qu'elle a été importante pour vous, cette production. Qu'est-ce que vous avez cherché, ou qu'est-ce que vous avez trouvé d'ailleurs, avec Lars Noren, qui signe la mise en scène de son texte?
Alors écoutez, c'est une rencontre, effectivement, dont j'espérais beaucoup. En fait, Lars Noren est l'auteur dramatique le plus joué au monde, ce qu'on ignore et qu'on ne sait pas suffisamment. Il a écrit beaucoup en travaillant à partir d'expériences en prison, d'expériences en hôpitaux psychiatriques. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a jamais fui ni la douleur, ni la souffrance, ni l'humain dans toute sa folie et dans toute sa fragilité. Donc, on l'a rencontré une première fois. Il avait l'idée d'une plage et de migrants qui venaient s'échouer sur cette plage. Mais il voulait choisir ses comédiens. Donc déjà, il a rencontré la troupe, choisi ses comédiens. J'ai appris que j'étais choisie, j'étais ravie. Et puis après, il nous a rencontrés un petit peu plus. Et il a réécrit beaucoup en nous envoyant à chaque fois toutes les nouvelles versions de sa pièce qui s'appelait Poussière au singulier. Je trouvais ça extraordinaire parce que c'était la première fois que nous étions, puisqu'on est 12 sur scène, immergés au cœur de la création littéraire. Parce qu'il aurait très bien pu dire, écoutez, premier jour de répétition, j'arriverai ma pièce finie et puis basta, puis on fera les répétitions. Non, c'était pas comme ça du tout. Il voulait vraiment qu'on soit complètement immergés avec lui, au plus près de cette création. Quand la première répétition est arrivée, c'était assez austère, il avait un petit cahier, il parle suédois, il dirige en anglais, il y avait une collaboratrice qui traduisait tout, une fille formidable d'ailleurs qui s'appelle Amélie Wendling et qui depuis est devenue sa traductrice, qui le connaît depuis 15 ans. Il a expliqué qu'en fait ce qui l'intéressait c'était de voir nos âmes. En fait, il était persuadé qu'on savait tout faire, parce que bon, la troupe avait très bonne réputation, c'était un lieu d'excellence, donc c'était pas la peine de lui en montrer, ni lui en faire voir. Lui, ce qui l'intéressait, c'était l'âme de chacun de nous. Chacun de nous allait recevoir la personnalité d'un personnage, donc, qui avait A jusqu'à J, A majuscule jusqu'à A, B, C, D, E, F, J jusqu'à J, qui est incarné par Didier Sandre. Et il allait falloir endosser cette identité. Pour ça, il allait nous demander beaucoup, mais aussi nous, lui en raconter beaucoup, parce qu'il voulait que tout se passe en même temps. Donc il a organisé des rendez-vous, on était en face à face, et il nous faisait parler sur nos disparus, par exemple, nos morts. Quels étaient nos morts? Est-ce qu'on avait encore nos parents? Est-ce qu'on avait des enfants? Comment ça s'était passé dans la famille? Sans être indiscret, il nous demandait beaucoup de raconter ce que l'on avait envie de raconter. Il y avait des choses, si on voulait pas en parler, on n'en parlait pas, puis c'était tout. Donc il y avait une première intimité comme ça. Et puis au début de chaque répétition, il y avait deux danses. Il y avait une première danse, il mettait une musique assez douce. Bon, il connaît très bien le français, il adore la culture française. Il connaît la variété française bien mieux que moi-même. Donc on avait des chansons douces sur lesquelles on dansait, on choisit un partenaire ou deux, ou plusieurs, ou personne d'ailleurs. Mais on a obligation de danser. Et puis la deuxième chanson, c'est un rock endiablé. Enfin, en général, c'est un truc assez violent. Et puis lui, pendant ce temps-là, il nous regarde. Et lui, il travaille. et il voit comment il associe tel couple à tel autre, ou telle personne plutôt que cet autre à une autre. Il fait ses propres couples. En fait, dans l'histoire, il n'y aura qu'un seul couple. Ça sera le couple A et B, donc Hervé Pierre et moi. Les autres seront des solitudes, mais des couples vont se former à travers cette soirée. Et l'opération a découlé, ce sont de toutes petites phrases, très très courtes, donc on ne pouvait pas apprendre tout seul. C'était absolument impossible, il fallait apprendre obligatoirement ensemble. Et je peux vous dire qu'on en a bavé, ça a été vraiment très difficile, parce que 2 heures de texte avec des toutes petites répliques qui sont parfois oui, non, et puis parfois rien du tout, et puis parfois 3 phrases ou 3 mots, ça a été pour chacun d'entre nous une épreuve pour la mémoire, parce que ce texte est terriblement versatile, et il s'oublie très très vite. Or, on ne joue pas tous les soirs au français. Et il y a une chose que le public et le grand public ne sait peut-être pas suffisamment, c'est ce phénomène de l'alternance, qui est une spécificité de la comédie française depuis Molière, donc depuis le XVIIe siècle. Et c'est la seule troupe au monde qui a ce principe de l'alternance et qui le défend depuis le XVIIe siècle. Bon. Donc, en fait, si vous voulez, cette troupe, c'est une espèce de trésor national. Moi, je ne vois pas ça autrement. Une espèce de patrimoine qui appartient à tous, d'ailleurs. Puisqu'en fait, on peut tous venir voir ce phénomène de l'alternance. Donc, vous avez un week-end à 14h, vous avez une tragédie classique. À 20h30, vous aurez peut-être, je ne sais pas moi, La Biche ou un Feydeau. Et puis, le lendemain, vous aurez un Lars Noren, parce qu'Éric Ruff souhaite que la création contemporaine et européenne soit associée à la comédie française, et puis le dimanche soir, par exemple, à Marivaux. Je ne sais pas, je vous dis ça comme ça au hasard. Et ce phénomène de l'alternance qui crée ce côté sportif de haut niveau, c'est assez étonnant de voir que même les gens les plus doués, ils vont se heurter, comme nous tous, à ce texte qui est vraiment un texte très très difficile. Donc on va craquer les uns après les autres. On va craquer, soit ça sera des larmes, soit ça sera un ras-le-bol, soit ce sera de la colère, soit ce sera... Mais il y a toujours un moment où un des 12 va dire « Ah non, mais moi, j'y arriverai jamais, mais jamais je n'y arriverai. » Jusqu'au jour de la couturière, où celui qui était vraiment le plus solide va craquer, au bout d'un quart d'heure de filage. Mais enfin, on y est parvenu. Hein. Et puis, cet après-midi de couturière se termine sur une chose un peu étonnante, c'est que Lars Noren nous dit « Écoutez, moi, je voudrais couper les 10 dernières pages. » Les 10 dernières pages qu'on avait tous appris tellement bien, qu'on savait tous tellement bien. Non, c'est pas possible. Si, il veut couper les 10 dernières pages et nous sommes 2 à être d'accord avec lui. Françoise Gillard et moi. Et tous les autres disent non, 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 mais non. On les a appris et puis c'est vachement important. Et puis moi ce que je dis là, et puis moi ce que je dis... Bon bref, enfin je vous la fais courte, ça va prendre 1 heure de débat. Mais finalement les 10 dernières pages vont être coupées. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que Lars Noren nous dit « Je ne verrai pas le spectacle ce soir. Et je ne le verrai pas le soir de la première. Parce que je serai reparti. Parce que ce spectacle, désormais, vous appartient. Il est à vous. Il a été écrit pour vous. Écrit pour chacun de vous. Vous avez été ma famille pendant 2 mois. Sachez que je vous aime au plus haut point. D'ailleurs, je sais déjà qu'en Suède, je vais penser à vous tous les jours. Mais ce spectacle est à vous. Donc, je vous le laisse, je vous le donne. » Et il est parti. C'est étonnant, non? Ce même jour, le texte était édité chez L'Arche et le petit livre arrivait dans les rayons de la boutique de la Comédie Française et sur les rayons des librairies. C'est une expérience extraordinaire, vraiment.
Je reviens à ce qu'on disait au tout début de cette semaine, quand vous disiez « je jouais quand j'étais petite pour chercher un regard ». Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous jouez toujours pour ça ou pour d'autres raisons, que la vie et votre parcours a enrichi ce désir de jouer d'autre chose?
Oui, 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 heureusement. Dites donc, sinon ça serait grave. Mais les raisons pour lesquelles vous jouez chaque soir, ça varie considérablement, évidemment, en fonction des rôles, des théâtres, en fonction des partenaires aussi. Ici, il y a une excellence des partenaires qui est quand même assez exceptionnelle. Mais bref, les raisons varient, mais ce que la maturité m'apporte, c'est que souvent je n'ai pas réalisé à quel point, enfin pour moi maintenant, le théâtre est un voyage chaque soir. Et à quel point j'ai, enfin de mon point de vue, la mission d'emporter le public chaque soir dans un voyage extraordinaire, quel qu'il soit, même si on reste, on bouge pas de place. C'est ma mission. Et ce que pendant longtemps, je n'ai pas suffisamment considéré, vous voyez, c'est qu'en fait, ce métier, il est là pour permettre aux autres de rêver. Rêver. Et je crois qu'on vit une époque où le rêve est de plus en plus interdit, si ce n'est manipulé, scénarisé. Enfin, tout est fait pour que notre intérieur, notre mental, soit interrompu, coupé, sollicité, agressé. Et je pense vraiment que le théâtre est le dernier lieu de l'intelligence. Alors, je ne parle pas du cinéma, c'est autre chose. Mais le théâtre, c'est ça. Pour moi, c'est une terre de résistance. Le mot est grave, mais j'y mettrais un R majuscule. De résistance à la connerie, à la bêtise, au vulgaire, à tout ce qui nous anéantit sur le plan de l'humain. Et je trouve que le théâtre redonne à l'humain ses lettres de noblesse. Parce qu'on y raconte des histoires, parce qu'il y a des héros, des héroïnes aussi, mais pas uniquement. C'est-à-dire que normalement, un spectacle de théâtre, vous y pensez, vous y repensez, il vous fera réfléchir. Et je crois que le fait de réfléchir est devenu si difficile et si fragile dans notre société sur-médiatisée, sur-numériquée, enfin tout ce que vous voulez, que c'est vraiment ça pour moi, le théâtre. C'est vraiment ça. Et j'espère m'y battre jusqu'à la fin de mes jours. Je crois même que, comme n'importe quel comédien ou comédienne, je rêve évidemment de mourir sur scène, ce qui serait quand même assez étonnant. Mais pourquoi pas ? Ce serait vraiment une belle sortie, pour le coup. Si vous voulez, auparavant, je pensais que c'était pour amuser le théâtre. Mais pas, évidemment pas uniquement. Et c'est pour ça que je pense, d'abord, que le rêve est extrêmement important, parce que c'est un endroit où encore personne ne pénètre. On est seul à se rappeler de ses propres rêves, et c'est vraiment l'intimité de l'intimité. Et puis pour moi, c'est ça, vraiment, ce lieu de résistance. C'est pour ça qu'il est très important pour moi que la jeunesse soit présente, parce qu'on la sollicite beaucoup pour les séries, pour l'image, pour les vidéos, enfin vous voyez, les portables, etc., tout ce qu'on sait. Et puis le virtuel, et puis tous ces nouvelles caméras, etc. Mais là, le théâtre, c'est autre chose. C'est vraiment la confrontation de l'humain à l'humain. Et pour moi, ça n'a pas changé depuis l'Antiquité. Je vais finir cette année qui vient, avec quelques autres, sur un des hauts lieux de l'Antiquité grecque. Le mot est lancé. Mais pour moi, c'est extraordinaire, parce que j'ai l'impression que je vais retourner à la naissance, véritablement, au lieu de naissance du théâtre grec, donc de nos origines, donc de toute notre civilisation méditerranéenne. Et cette chance-là, je n'imaginais pas pouvoir la vivre un jour, ici, en étant à la Comédie-Française. C'est un cadeau de la vie.
Merci beaucoup, Dominique Blanc.
Merci à vous.
De cette rencontre de Zoé Sfez avec Dominique Blanc. À voix nue, réalisation Anne-Laure Chanel, prise de son Gilles Gallinaro, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.